Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici un écrivain français très lu et très adapté au cinéma. Mais si l'on nous indiquait titre de roman et titre de film, interrogé à froid, à brûle-pourpoint, sans avoir le temps de réfléchir, eh bien, saurions-nous dire son nom ? Le nom de cet écrivain, dont pourtant, oui, nous avons vu les adaptations cinématographiques des romans. Peut-être pas. Pierre Boulle. Mais l'œuvre de Pierre Boulle ne se limitait pas à ses deux romans les plus célèbres. Ainsi, Morceau choisi, le 19 mars 1965 sur France Culture, s'intéressait aux contes fantastiques et à la littérature de l'hypothèse dans l'œuvre de Pierre Boulle.
France Culture présente Morceau choisi. Morceau choisi. Page publiée, choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget. Ce soir, Pierre Boulle, avec Michel Bouquet et Alain Cuny. Réalisation Georges Gravier. Œuvre de Pierre Boulle. William Conrad. Le sacrilège malais. Le pont de la rivière Kwai. La face. Le bourreau. L'épreuve des hommes blancs. Les voies du salut. Un métier de seigneur. La planète des singes. Conte de l'absurde suivi de E égale MC2. Le jardin de Kanashima.
Mécanique, avaient dit les adversaires du professeur Fontaine en parlant des joueurs d'échecs. Mécanique, avait reconnu loyalement le savant, mais tout ce qui est humain est mécanique, par exemple le langage. Et sans écouter les sarcasmes qui avaient ridiculisé ses prétentions, ni les chansons qui célébraient l'avènement du robot écrivain, il avait approfondi cette idée en discutant avec son propre démon. « Il ne faut pas songer pour l'instant, avait-il dit, à une machine composant un récit, quoique ceci ne doive pas être écarté comme éventualité future. Nous commencerons par le début et nous limiterons à de courtes phrases. Il n'existe pas de difficulté particulière à concevoir une machine produisant des mots. Les mots ne sont que des combinaisons en nombre fini de consonnes et de voyelles et leur synthèse peut se ramener à une opération entièrement mécanique à partir d'une lettre initiale. » Considère un robot, auquel est fourni comme données un très grand nombre de ses consonnes et de ses voyelles. Il est enfantin d'imaginer un dispositif reliant chacun des mots de la langue à la machine, et tel que toute combinaison inexistante de lettres soit automatiquement éliminée. Suppose que le hasard d'un premier circuit retienne comme lettre de base un M. Un deuxième circuit entre en action et propose comme deuxième lettre, un V. La combinaison MV est impossible comme début de mot. Elle sera refusée par mon dispositif, le V écarté, et la machine proposera successivement d'autres lettres jusqu'à ce que l'une d'elles soit admissible. Si un O est présenté, il sera admis. La combinaison MO, mot, sera sélectionnée. D'autres circuits amèneront une troisième lettre et ainsi de suite. Le hasard servant de base, puis, par tâtonnement et sans intervention de l'esprit humain, le robot composera un groupement correspondant obligatoirement à un mot existant commençant par mot, par exemple, mouton. Lorsqu'une semblable combinaison aura été ainsi trouvée, alors, et alors seulement, mon dispositif arrêtera automatiquement le processus. Il est également aisé d'imaginer des compartiments spécialisés dans la formation de noms, d'adjectifs, de verbes, d'articles et d'adverbes, au singulier ou au pluriel, les verbes à des personnes et des temps différents. Nous pouvons ensuite concevoir un deuxième stade où se fera un premier rapprochement. Si le nom « mouton » a été choisi, il est évident qu'il entre dans les possibilités d'un mécanisme de le combiner avec un article et un adjectif grammaticalement convenable, de sélectionner par exemple des ensembles tels que le mouton fluide, ou un mouton ténébreux, ou le mouton blanc, à l'exclusion de tous ceux qui heurtent les règles rigides de l'accord en genre et en nombre, comme une mouton fluide ou la mouton lumineuse. Nous n'avons rencontré jusqu'ici aucune difficulté. Le mouton fluide ne signifie rien, interrompit le démon de la contradiction. Laisse-moi poursuivre. Chaque chose en son temps. Nous n'aurons pas beaucoup plus de peine dans l'étape suivante qui verra la fabrication complète d'une phrase simple, en accord avec les règles de la syntaxe qui sont déterminées et qu'une machine peut appliquer aussi bien et même mieux qu'un cerveau humain. Nous verrons donc apparaître un certain nombre de phrases grammaticalement correctes, telles que le mouton fluide vole sous le ciel pointu. Ou le mouton blanc mange de l'herbe. C'est là que je t'attends, reprit le démon. La plupart de tes phrases, grammaticalement correctes, comme tu dis, seront absurdes. Elles seront irréprochables du point de vue de la forme, c'est le point essentiel que je voulais te faire admettre. Dans le nombre, il s'en trouvera certainement qui auront un sens. Il ne nous restera plus alors qu'à procéder à une nouvelle sélection. C'est ici qu'intervient ma théorie des vérités premières. Des vérités premières, suis-moi avec attention. Le problème est du même ordre que celui du jeu d'échecs, quoiqu'un peu plus subtil. Il s'agit d'éliminer ici toute expression non significative. Tu crois peut-être que cela dépasse les capacités d'une machine. Il n'en est rien. Toute signification n'est qu'une transformation d'une signification antérieure. L'énoncé le plus savant n'est qu'une permutation des constatations élémentaires d'un énoncé primaire. En procédant de proche en proche, nous remontons à une évidence, ou à ce que j'ai appelé une vérité première. Celles-ci sont en nombre limité et peuvent fort bien être reliées électroniquement aux éléments sélectifs d'une machine qui, après avoir effectué les permutations nécessaires, éliminera impitoyablement dans les expressions présentées tout ce qui heurte l'une quelconque de ces évidences, ou même ce qui ne se rattache pas à l'une d'elles. Ne seront émises que les phrases vraiment significatives. Je maintiens que l'esprit humain ne procède pas d'une autre façon lorsqu'il cherche à s'exprimer. Le professeur avait construit sa machine. La mise au point de son sélecteur de signification avait d'abord paru délicate. Mais, à mesure qu'il avançait dans l'établissement des vérités premières, il s'était aperçu que leur nombre était encore moins grand que ce qu'il avait supposé. Il suffisait d'une classification convenable pour les ramener toutes à quelques axiomes fondamentaux tels que « A est A » et A n'est pas non-A, et un petit nombre de perceptions immédiates des sens. À partir de ces seules données, et en les combinant, la machine parvenait à déceler toute expression non significative. Ainsi, des phrases telles que « le mouton fluide vole sous le ciel pointu » ou « le mouton blanc mange du veau » étaient éliminées. Les groupes partiels, comme « mouton fluide » ou « ciel pointu » étaient écartés par un sélecteur préliminaire. Un verbe comme « vol » ou un complément baroque comme « veau » était rejeté par le dispositif final jusqu'à ce que se présentât une combinaison de la classe « le mouton blanc marche sous le ciel bleu » ou « un mouton blanc mange de l'herbe », proposition qui se révélait compatible avec toutes les vérités premières et que le robot émettait automatiquement. Le subtil professeur avait passé des années à perfectionner son écrivain électronique. Le progrès dans ce domaine, expliquait-il, consiste à obtenir des expressions qui, bien qu'étant des transformations de vérité première comme elles le sont toutes, dissimulent soigneusement ce fait sous la complexité ou l'originalité de la forme, exigeant ainsi un long travail de débrouillage pour remonter à la source. C'est ainsi que, ayant débuté par des évidences telles que « le mouton blanc est blanc », puis, lorsqu'on lui eut traduit les données en plusieurs langues, ayant continué par « ego sum qui sum », le robot écrivain avait, peu à peu, compliqué ses expressions et était parvenu à émettre des propositions plus complexes. On avait recueilli « ex nihilo nihil fuit »,« le chat mange la souris », »,« et pourtant elle tourne »,« je pense donc je suis », et un jour, qui fut un jour de triomphe pour le professeur Fontaine, « To be or not to be, that is the question. »
Pierre Boulle, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de romans, d'un nombre important de romans. Parmi ces romans, William Conrad et Le pont de la rivière Kouai sont considérés comme des best-sellers et ont été adaptés le premier au théâtre, le second au cinéma. Vous avez écrit également des recueils de nouvelles fantastiques, des contes de l'absurde et très récemment Histoires charitables. Ces histoires, ces recueils de nouvelles, révèlent un autre aspect de votre œuvre, un aspect fantastique. Ce sont des histoires fantastiques. Cet aspect dans votre œuvre est sans doute moins connu, et c'est cet aspect qui nous intéresse ici, dans cette série d'émissions consacrée à des écrivains qui introduisent dans la littérature une nouvelle forme d'expression. Vous avez également employé la science-fiction pour raconter ces histoires, d'une certaine manière qui est discrète, mais vous avez employé la science-fiction. Je voudrais savoir quelles sont les ressources que vous apporte la littérature d'hypothèses.
Je vous dirai tout de suite, vous avez parlé de science-fiction, je ne crois pas avoir jamais écrit exactement de nouvelles de science-fiction au sens où on l'entend en général. J'aime beaucoup la science-fiction, il est possible que j'écrive plus tard des récits de science-fiction. Ce n'est pas exactement comme cela que je considère mes nouvelles. Je dirais plutôt que c'est une certaine recherche, oui, mais une certaine recherche non pas du fantastique, mais de l'insolite. Car les histoires que je raconte, je crois, restent toujours simples. Et elles ont toujours, je pense, un fond humain.
Oui.
Je crois qu'il y a une différence entre le fantastique et l'insolite.
Oui, quelle est la différence que vous faites entre les deux ?
Eh bien, science-fiction, un auteur de science-fiction cherche à imaginer des êtres nouveaux, des personnages différents, des êtres fantastiques, alors que je ne crois pas avoir jamais imaginé des êtres semblables. Mais vous avez parlé tout à l'heure de mon recueil « Les contes de l'absurde ». Dans une de ses nouvelles, intitulée « Les Luniens », il est question de deux groupes de personnages qui débarquent sur la Lune, mais enfin, ce n'est pas, on ne peut pas considérer ça comme fantastique. Et c'est des groupes de personnages, c'est un groupe russe, un groupe américain, ça reste complètement humain, il n'y a rien de fantastique. Dans le même recueil, Les Contes de l'Absurde, ou égale MC2, il y a une nouvelle qui a été écrite il y a longtemps, où il est question d'un satellite. C'était un peu, à ce moment-là, c'était un peu d'anticipation, car il n'y avait pas encore de satellite, mais tout ce que j'ai écrit à ce sujet pouvait presque arriver. Ce sont des histoires qui restent toujours simples, à mon avis.
Dans quelle mesure sont-elles différentes de vos romans ?
Je crois quand même qu'il y a un fond commun, malgré tout. J'ai toujours recherché dans mes romans, aussi bien dans Le Pont de la rivière Kouai, que vous avez cité tout à l'heure, que dans William Conrad et que dans quelques autres, j'ai toujours recherché un certain côté insolite des caractères et de comportements. Par exemple, le comportement du colonel Nicholson dans Le Pont de la rivière Kouai, ça n'arrive pas à tout le monde, si vous voulez, c'est à la limite du possible. Ce colonel qui a étranglé un de ses compatriotes pour sauver l'ouvrage qu'il a construit pendant la guerre. Malgré tout, cela reste une situation simple. William Conrad également, c'est un personnage insolite qui devient, à force, un espion allemand qui finit par devenir plus anglais que les Anglais parce qu'il suit une consigne. C'est un côté insolite, mais enfin, c'est simple. Ça se rattache à des sentiments humains, je crois. La différence entre mes romans et mes nouvelles, c'est que j'ai probablement poussé, comme tout de même, mes nouvelles un peu plus du côté de l'extraordinaire. Mes romans, quand même, restent à la limite du réel, tandis que les nouvelles, évidemment, débordent souvent de ce cadre.
Ils reprirent leur ascension le lendemain de bonne heure, car le chemin qui restait à parcourir était malaisé et abrupt. Comme Jehan Maillard l'avait prévu, l'étranger était parti avant eux, suivant toujours une spirale dont le rayon allait diminuant. Le temps était orageux, la chaleur lourde. Le prieur ahanait et trébuchait dans les passages difficiles. Ils traversèrent une région déserte et se frayèrent un chemin à travers des amas de roches déchiquetées, à l'aspect sinistre, qui marquait l'entrée de la haute maladrerie. Et voici le 9e cercle avec ses infortunés habitants, dit Jehan Maillard. Ô race d'hommes maudites entre toutes, qui gémit dans ce lieu dont il est dur de parler, mieux eût valu pour toi la condition de bête. Je me demande si votre Florentin n'aurait pas trouvé ici quelques horreurs supplémentaires pour meubler son enfer. Il en aurait découvert au moins une, prieur, dit le médecin haletant, en s'arrêtant pour reprendre son souffle. Son enfer était un gouffre, et on le visitait en descendant. Les intrus ne risquaient pas la suffocation qui nous guette dans cette escalade. Le vieillard ne se dérida pas. Après une courte pause, il repartit d'un pas lourd et demanda sur un ton grave « Ceux qui sont ici ont-ils longtemps à vivre ?»« Des mois, des années peut-être. J'ai connu un ladre dont le corps n'était que putréfaction. La vermine y grouillait, il a vécu longtemps ainsi. » Le prieur laissa échapper un soupir. La lèpre tue lentement, et il s'en félicitait, ajouta Jehan Maillard. Il craignait la mort. Ils montèrent encore. Le cône se rétrécissait de plus en plus. Le prieur transpirait à grosses gouttes, et cette sueur lui paraissait infecte. Jamais il n'avait senti comme aujourd'hui le poids des ans et celui de la lèpre. À la vérité, l'atmosphère devenait étouffante. De sombres nuages s'amoncelaient au-dessus de la plaine. Du côté de la ville, la campagne était encore ensevelie sous une nappe rougeâtre. Le médecin tenta de distraire son compagnon par ce spectacle. « Ceci est bizarre, prieur. C'est bien de la poussière, et elle persiste depuis 3 jours. Il faut que les routes soient sillonnées par une cohue ininterrompue. Quelle foire, quelle fête peuvent expliquer cela. Et que sais-je? La guerre, la panique peut-être, fit le prieur avec impatience. Que nous importe, avez-vous dit hier. Les ennemis du royaume ne sont pas les nôtres. Messire Thomas d'Orfeuil était vraiment de méchante humeur, et pour plusieurs raisons. D'abord, la haute maladrerie lui inspirait toujours de sombres pensées. Quoique le médecin lui eût donné l'assurance que son corps ne subirait plus de graves dégradations, il lui arrivait parfois de voir en certains habitants de la zone maudite une représentation future de lui-même, et cette vision était insoutenable. Ensuite, il rendait son compagnon responsable du trouble qui s'était introduit dans son esprit au sujet du saint, et lui en voulait d'avoir gâché peu à peu la joie que lui avait causée sa venue. Son sommeil avait été tourmenté par des cauchemars absurdes où des anges se transformaient en démons. Jehan Maillard n'insista pas. Ils marchèrent longtemps en silence. Comme ils approchaient du sommet, ils aperçurent l'objet de leurs préoccupations. L'étranger était assis sur un rocher devant un groupe de huttes, les dernières habitations avant la pointe du cône. Aucun lépreux n'était visible, mais il devinait des yeux qui les épiaient derrière les branchages. Ici, les ladres restaient le plus souvent à l'intérieur de leur misérable tanière, comme honteux de se montrer à la face du ciel. L'étranger, la tête basse, paraissait assoupi. Il ne s'aperçut de leur présence que lorsqu'ils furent près de lui. Alors il sursauta et tourna vers eux un visage ravagé. Le médecin lui parla très doucement. « Tu es exténué, étranger, on le serait à moins. Ton courage et ton ardeur suscitent notre admiration. Mais il n'y a pas de sens à se tuer à force de charité. » Et tu feras plus de bien en mesurant tes efforts. Notre prieur, qui est lui-même un saint homme, te dira qu'il faut ménager sa santé si l'on veut pouvoir se dévouer aux autres pendant longtemps. Je te vois là, prêt à défaillir. C'est la chaleur, murmura le saint. Il parlait toujours les dents obstinément serrées. ce qui tordait ses lèvres en un rictus bizarre, mais sa voix avait perdu de sa profondeur. Elle était à peine plus haute qu'un chuchotement. « Mon frère, dit le prieur, les conseils de maître Jehan Maillard sont sages. Je te l'ai dit, quand il s'agit de notre santé physique, nul n'est plus savant que lui. Ainsi, si tu le veux bien, modère aujourd'hui ton zèle. Reviens avec nous vers le monastère où tu te reposeras. Demain, tu poursuivras ta mission plus dispos. » « Tes mains tremblent, ajouta le médecin. Je suis sûr que tu as la fièvre. » Il s'approcha pour lui saisir la main. L'autre se dressa d'un bond et se recula de plusieurs pas. Ses yeux mornes avaient pris une expression farouche. « Il me faut encore voir ceci, dit-il, de la même voix étouffée. » Il avait surmonté sa défaillance. Il marcha d'un pas ferme vers la hutte la plus proche et y pénétra. Le médecin le suivit en secouant la tête car il avait affaire dans cet antre. Frère Rose l'accompagna avec les médicaments. Le prieur ne put se forcer à s'approcher du cloaque d'où s'échappait une odeur répugnante. Il s'assit sur le sol à quelque distance en les attendant. Quand Jehan Maillard sortit, ses traits étaient altérés. Il parla sur un ton grave qui ne lui était pas habituel. Prieur, dit-il, je me repens de mes railleries et de mes soupçons. En vérité, cet être est d'une essence surnaturelle. Ce que je lui ai vu faire ici dépasse les bornes de l'héroïsme, car, je vous le dis, ceux qui habitent là ne peuvent se comparer qu'à des cadavres en putréfaction. Moi, médecin, moi, ladre, je ne puis les toucher que du bout de mes doigts gantés et en détournant la tête. Lui, il n'a pas eu un tressaillement. Et il les a, oui, prieur, il les a étreints, serrés contre lui avec autant de passion que les autres. Thomas d'Orfeuil resta un moment silencieux, mal à l'aise. Il s'en voulait de ne pas trouver des paroles qui convenaient pour louer ce trait prodigieux. Il se força enfin à prononcer à voix basse, « Dieu inspire à ses élus un courage qui me stupéfie. Je me sens indigne. Moi aussi. » avoua le médecin. Tous les hommes ne sont-ils pas frères ? Chuchota une voix derrière eux. Ils sursautèrent. Cette voix sans timbre et cependant méprisante leur causait maintenant une répulsion instinctive. Le saint quittait le hameau après avoir visité chaque hutte. Il s'assit à quelque distance d'eux, porta sa main à sa poitrine et ne bougea plus. Ils allaient s'approcher de lui quand un coup de vent subit balaya la montagne aux malades et attira un moment leur attention. Ils se tournèrent machinalement pour présenter leur visage en sueur à la fraîcheur relative de cette bouffée et s'aperçurent d'un changement dans le paysage. La nappe de poussière qui couvrait la plaine s'était disloquée en plusieurs points et laissait entrevoir des fragments de campagne à travers les déchirures. En même temps, le soleil, perçant un nuage, éclaira de nombreux détails. Comme il l'avait deviné, une agitation inaccoutumée régnait sur les routes. Frère Rose, qui avait une vue perçante, leur décrivit des chariots, des cavaliers et des hommes à pied. D'après lui, tous allaient dans la même direction, tournant le dos à la ville. « Cela semble l'exode d'une population, prieur, dit Jehan Maillard. La guerre, certes, mais... » Il n'acheva pas sa phrase et resta pensif. Le vent soufflait maintenant par longues bouffées séparées par des intervalles de calme. Le prieur, qui humait l'air à plein poumon, tressaillit soudain et regarda son ami. Celui-ci paraissait interloqué comme lui et ouvrait toutes grandes ses énormes narines. « Avez-vous senti ?» Jehan Maillard fit un signe d'assentiment et son nez interrogea de nouveau la brise. « N'est-ce pas ? Une odeur de cadavre en putréfaction. Quelqu'un de nos malheureux ladres. Cela ne peut venir de la montagne. Nous tournons le dos aux huttes, et c'est le vent qui apporte cette puanteur. Et puis, une charogne de ladres sent toujours la lèpre, et ceci n'est pas une odeur de lèpre, prieur. Je le jurerai. » Ils restèrent un moment silencieux, hésitant. L'agitation de l'air apaisée, l'odeur s'évanouit. Ils revenaient vers l'étranger qui était resté immobile, prostré sur le sol, quand leur attention fut encore distraite par un bruit strident ressemblant au son d'une crécelle. Il provenait du sommet même de la montagne et semblait se rapprocher. Comme si ce bruit était un signal d'alarme redouté, l'affolement et la panique régnèrent aussitôt sur la montagne aux malades. À l'intérieur des huttes, l'agitation se traduisit par des grognements inarticulés et les portes furent repoussées avec violence. Le domestique du prieur jeta les bagages qu'il portait et s'enfuit, dévalant la pente à toutes jambes. Frère Rose se mit à bredouiller d'une voix terrifiée. « Le nègre, le nègre !» Le bon moine avait traversé avec une parfaite indifférence les cercles les plus répugnants, suivi le médecin dans les abominables huttes, aidé à panser des chairs immondes, mais l'approche du lépreux noir lui ôtait tout courage. Quand il accompagnait Jehan Maillard dans la haute maladrerie, il s'arrêtait toujours à distance du sommet. Le médecin montait seul. Il avait lui-même besoin de faire appel à sa conscience professionnelle et à toute sa philosophie pour se résoudre à affronter l'abyssin. Comme le bruit de la Tartavelle était proche, il essaya de plaisanter d'une voix qui manquait d'assurance. « Et voici Satan qui habite le sommet du cône. Messire Dante l'a placé là, et rien ne manque à notre propre enfer. » Le prieur tremblait et sentait ses jambes faiblir. Il ne put articuler un mot. La silhouette de l'abomination apparut au détour d'un sentier descendant vers eux. Alors l'étranger, qui avait relevé la tête, parut sortir de sa prostration. Il se leva. Il titubait, mais une volonté ardente semblait de nouveau triompher de sa fatigue. Le nègre s'arrêta à quelque distance de lui, surpris de ne pas le voir prendre la fuite. Il avait revêtu l'uniforme complet de la lèpre, vêtements gris, un cœur rouge apparent sur la poitrine, un voile noir cachait son visage. L'étranger ouvrit les bras et fit un pas dans sa direction. Le prieur eut un sursaut instinctif et ne put se retenir de crier « Non, non, mon frère, pas lui !» Pas lui, pas celui-là. Dieu ne demande pas. Dieu ne peut exiger cela. Frère Rose, malgré sa vénération évidente pour le saint, ne pouvait supporter ce spectacle. Il se coucha sur le sol, la tête dans les mains. « Tous les hommes ne sont-ils pas frères ?» chuchota le saint. « Laissez-le faire, prieur, murmura Jean Maillard. Après tout, celui-là, je l'atteste, est moins profondément rongé que beaucoup d'autres. Il est noir. » gémit Thomas d'Orfeuil avec accablement. L'étranger fit un second pas. Le prieur eut un geste de désespoir. À ce moment, comme pour ajouter à son désarroi, une brusque rafale de vent ramena l'odeur. D'un coup, toute la haute zone fut imprégnée de miasmes fétides qui remplacèrent en un instant la puanteur permanente de la lèpre sans se mélanger avec elle. Le prieur et le médecin furent paralysés par le dégoût. L'étranger ne parut pas y prendre garde et continua de marcher vers le lépreux noir. Mais celui-ci avait senti l'infection et elle produisit sur lui un effet singulier. D'un mouvement extraordinairement prompt, à la façon dont un oiseau relève le col, il tourna brusquement son visage voilé vers la plaine et s'immobilisa ainsi pendant quelques secondes, comme s'il percevait quelque signe surnaturel à l'horizon. L'étranger, s'approchant des bras ouverts, le noir redressa la tête du même geste mécanique et lui fit face. Le prieur perdit complètement le contrôle de ses nerfs. « Empêchez-le » s'écria-t-il. « Pour l'amour du ciel, je vous dis que Dieu ne peut pas vouloir cela. Il y a ici une puissance maléfique. Cette odeur... » « Cette odeur, » murmura Jehan Maillard, « autrefois, en Italie, il me semble. » Le médecin paraissait perplexe. Les sillons de son front grotesque s'étaient creusés davantage par l'effort qu'il faisait pour se remémorer une impression très ancienne. Il s'interrompit tandis que les deux religieux se signaient avec frénésie. L'étranger était arrivé contre le lépreux noir. Sa manifestation d'amour et de charité prit la forme d'un assaut. D'un geste violent, il arracha le voile du nègre, dont la face nue apparut aux hommes de la maladrerie. Une face dilatée, énorme, ravagée, mais surtout noire. Noire, comme le visage d'un démon, moucheté seulement par les plaques livides de la lèpre. Le saint serra l'abomination dans ses bras et colla ses lèvres contre sa joue. L'embrassement fut court. Par sa soudaineté inattendue, son dénouement acheva de dérouter l'âme des spectateurs. Le nègre saisit d'abord de ses deux mains la tête du saint et l'écarta de lui, l'immobilisant à quelques pouces de son propre visage qui, malgré sa bestialité, exprimait maintenant un sentiment humain, la peur. Il resta ainsi un instant à la contempler, puis, sans la lâcher, se tourna vers la plaine, dans un de ces mouvements saccadés d'une incroyable promptitude qui suggérait invinciblement un réflexe d'animal en alerte. Ses narines palpitèrent, comme s'il voulait se repaître de l'odeur que la fin de la rafale laissait encore traîner sur les pentes. Pendant le temps qu'il resta ainsi, le cou tordu, son expression apeurée prit une intensité singulière, de sorte que l'épouvante, l'horreur et le désespoir se lisaient sur ses traits et dans ses yeux, lorsque, toujours à la façon d'un automate, il reporta son regard sur le sein. Sa bouche, encadrée de hideux bourrelets, s'ouvrit alors. Il en jaillit un hurlement qui fit vibrer la montagne aux malades et qui glaça tous les lépreux de la haute maladrerie. En même temps, avec la violence que seule peut inspirer une terreur mortelle, il repoussa loin de lui le saint, qui trébucha de plusieurs pas en arrière avant de s'affaler sur le sol, où il resta inerte, comme un pantin démantibulé. Le lépreux noir se tourna vers Jehan Maillard, et, entre deux hurlements, prononça quelques mots dans son langage barbare. Ensuite, il tourna les talons et s'enfuit, tandis que la tartavelle attachée à sa ceinture accompagnait à la manière d'un glas les imprécations qu'il lançait vers le ciel. La disparition du nègre parut rendre un peu de calme à Thomas d'Orfeuil. Il fit un dernier signe de croix et interrogea son compagnon. Qu'a-t-il dit ? Jehan Maillard ne répondit pas immédiatement, il avait pâli. Son visage s'était encore plus profondément creusé. Il lui semblait que les bribes de souvenirs qu'il avait effleurées tout à l'heure commençaient à se souder en un ensemble cohérent dont il était tout près de découvrir la signification. Mais avant même de comprendre, de pouvoir expliciter la solution de l'énigme, il était pétrifié par le pressentiment de l'horreur que comportait sa prochaine découverte. Cette intuition le privait de son sang-froid habituel. Il parla enfin d'une voix tremblante. Il a dit... En vérité, je n'ai compris qu'un mot. Noir. Laissez-moi réfléchir. C'est cela. Noir. Il a parlé de quelque chose de noir. Cela, j'en suis sûr, c'est le mot de son langage que je connais le mieux. Il me l'a répété souvent en se frappant la poitrine avec accablement. Évidemment, alors, il faisait allusion à sa propre couleur. Mais ici, ce n'est pas cela. Sa réflexion fut interrompue par une nouvelle vague de puanteur. Il changea subitement d'attitude, marcha vers l'étranger qui était resté inerte et lui parla sans aménité. « Toi, toi qui viens de la ville, à ce que tu nous as dit, tu dois savoir ce qui se passe là-bas. » Nous avons d'abord pensé à une fête, mais il poussa une exclamation en voyant la physionomie de l'homme étendu sur le sol. Le visage du saint était devenu cadavéreux et semblait se décomposer sous leurs yeux. « Mais, prieur, cet homme se meurt !» « Une fête, vraiment !» balbutia le saint avec une affreuse grimace. Il essaya de se soulever, mais sa tête retomba lourdement. Il ferma les yeux et ne bougea plus. Jehan Maillard, oubliant toute préoccupation, autre que celle de sa profession, s'agenouilla près de lui et posa la tête sur sa poitrine. À ce contact, le saint rouvrit les yeux, et un étrange rictus anima son visage, le temps d'un éclair. Dans un dernier effort, il ouvrit les bras et étreignit convulsivement le médecin en murmurant « « Mon frère. » Jehan Maillard se dégagea avec brutalité. Son visage exprimait la même épouvante que le nègre et ses narines frémissaient de la même façon. Il pâlit davantage. « L'odeur de sainteté s'est dissipée, prieur, s'écria-t-il. Il ne reste plus que la puanteur, celle-là même qui monte de la ville. Ah, certes, ceci ne peut pas être l'odeur de la lèpre. Le saint, en cet instant, lui coupa la parole. Il était en proie à un violent accès de fièvre et cette énergie morbide se manifestait soudain par un torrent de paroles désordonnées. « Une fête, dites-vous. Oh, quelle fête ! Avec une procession. la procession des morts, la charrette des morts la nuit. C'est moi qui conduisais la charrette, personne d'autre n'osait. Je jetais moi-même les morts dans le cimetière, avec quelques-uns qui étaient seulement à demi morts. À peine étais-je parti que les loups venaient gratter la terre. Après moi, personne n'osera mener la charrette. Mais tous les hommes ne sont-ils pas frères ? Il hurlait. La sonorité imprévue de sa voix emplissait la montagne. Pour la première fois, il ouvrait la bouche toute grande, écartant les mâchoires à plaisir, comme si, sa mission accomplie, il n'avait plus de raison de se contraindre. Sa langue, qu'il avait réussi à dissimuler depuis la veille, apparaissait gonflée comme une outre et noire, d'un noir bleuâtre dans un palais de la même teinte, d'où s'exhalait un torrent de miasme. « Cher médecin, beau médecin, je te reconnais. Quand j'ai été frappé, c'est toi qui t'es approché. Oh, ah, dis pas seulement, recouvert d'un masque grotesque et imbibé d'encens, c'est toi qui as fait clouer ma porte. Mais tu as omis une fenêtre et tu as oublié quelques-uns de tes parfums. C'est toi qui as interdit à toute créature de s'approcher de mon logis. C'est toi qui l'as marqué d'une croix blanche et qui écrivit sur le mur « Dieu, ayez pitié de nous. Dieu, ayez pitié de nous. » murmura en écho Jehan Maillard, qui semblait frappé de la foudre. « Personne n'a eu pitié de moi, mais moi, je n'ai pas craint de m'approcher des ladres. La lèpre ne peut rien contre moi. J'ai donné le baiser à 1000 ladres. À toi aussi, beau médecin ladre. La lèpre tue lentement, dis-tu. Ne suis-je pas moi-même un excellent médecin, le meilleur des médecins ?»« Prieur !» hurla Jehan Maillard, sortant de sa torpeur. « Prieur !» Votre saint, notre saint! D'un élan furieux, il se précipita sur l'homme qui était retombé en arrière évanoui. En quelques gestes violents, rageurs, il retroussa jusqu'au cou la longue robe brune et arracha tous les autres vêtements. Le prieur le vit alors vaciller et faire un pas en arrière devant la dernière horreur qu'il avait dévoilée. D'affreuses tumeurs, de dégoûtantes taches, d'un noir hideux, parsemaient l'aine du sein. Les mêmes stigmates lugubres apparaissaient sous les aisselles et envahissaient déjà le reste du corps. Les plaques, s'élargissant et se rejoignant, commençaient à ensevelir la chair comme dans un drap funèbre. Le médecin lança une imprécation obscène. La rage faisait trembler tout son corps. Il tendit le doigt vers les marques fatales et rugit en se tournant vers son ami. « Le fléau, 100 fois plus contagieux, 1000 fois plus terrible que la lèpre. Prieur, le mal qui tue en 5 jours. La peste. La peste noire.
Pourquoi avez-vous appelé ces contes les contes de l'absurde ? Vous avez lutté contre l'angoisse qui était dans ces histoires par l'humour. Qu'est-ce que vous apporte l'humour ?
C'est une tournure un peu personnelle. Depuis que j'écris, ça fait 15 années, j'ai souvent oscillé entre l'angoisse et l'humour, oui. C'est une façon de m'exprimer. Il m'est difficile de m'exprimer d'une manière qui ne soit pas un peu sarcastique.
Parmi les œuvres d'humour, et je pense aux anglo-saxons, est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont influencé ?
Il y a certainement des œuvres des anglo-saxons qui m'ont influencé, pas tellement des œuvres d'humour. Alors, certaines œuvres, au point de vue romanesque, je crois, il y a un romancier anglo-saxon qui m'a énormément influencé, je ne dis pas, mais enfin que j'aime beaucoup, c'est Joseph Conrad.
Vous avez dédié une de vos nouvelles à Mark Twain, pourquoi ?
Je ne l'ai pas dédié à Mark Twain, j'ai dit j'aime beaucoup Mark Twain, j'ai écrit un conte d'après une œuvre de Mark Twain. Mark Twain a écrit Histoire du bon petit garçon et Histoire du mauvais petit garçon, moi j'ai écrit Histoire du bon et du mauvais petit écrivain.
Qu'est-ce que vous entendez par le bon petit écrivain ?
Un bah, c'est encore un titre assez ironique, assez sarcastique. Je crois que c'est un peu une, ce conte-là est un peu une satire contre l'hypocrisie. Car mon bon petit écrivain, est en fond, c'est un misérable hypocrite. Comme un peu le bon petit garçon de Mark Twain, d'ailleurs.
En quoi pensez-vous qu'il est hypocrite ?
J'ai essayé de le montrer tel que je le voyais, enfin, c'est... En quoi est-il hypocrite ? C'est assez difficile. Ça se voit dans les premières lignes, dans ce que j'ai dit. Le bon petit écrivain, il refuse de donner des interviews, il se cache, mais dans le fond, il serait très heureux qu'on vienne le chercher.
Dans les histoires charitables, le titre est amusant. Pourquoi pensez-vous que ces histoires soient charitables ?
Oh, je l'ai appelé histoire charitable tout simplement parce que je crois vraiment qu'elles ne le sont pas du tout.
C'est pas
antithèse. C'est un titre ironique, absolument. Et il suffit de voir la première qui est assez affreuse, atroce même. Elle ne peut pas dire qu'elle soit charitable du tout.
Je ne pus retenir une exclamation violente, tant la vision qui m'apparut sous le feu des projecteurs dépassait en étrangeté et en pathétique mes rêves les plus fous. Avant d'en avoir saisi la nature physique, je me sentis bouleversé, pris à la gorge par une série d'impressions tumultueuses tellement hors de proportion avec les objets eux-mêmes que j'avais sous les yeux, qu'elle m'affectait comme des incongruités et que tout mon être protestait contre les termes par lesquels je les traduisais instinctivement. Délabrement fut le premier mot que mes lèvres prononcèrent. Oui, délabrement était le motif essentiel, harcelant, de la fantastique symphonie qu'une disposition hétéroclite d'éléments biscornus tendait à composer dans cette salle. Délabrement, et ensuite comme une succession d'harmoniques autour de ce thème principal, désordre, ruine, déchéance, et aussi gâchis, sabotage, boucherie, charcutage. Et encore d'une manière qui me parut le comble du baroque, car il n'y avait là que de la matière inerte, angoisse et souffrance. J'éprouvais en une seconde ce mélange d'impressions. Je balbutiais tous ces mots pêle-mêle dans le premier instant que je découvris ce spectacle, mais celui qui finit par s'imposer à mon esprit avec le plus de force, comme la synthèse la plus évocatrice de ce chaos, était insanité. J'avais devant moi une calculatrice géante, une des plus perfectionnées, un cerveau électronique d'après le jargon à la mode, et cette présence seule en ce lieu tenait du prodige. Car il n'existait dans le monde, je le savais, que 3 ou 4 unités de ce type, de cette taille et de ce prix. Mais que dire de l'état de cette machine ? Comment surtout exprimer l'émoi et l'horreur particulière provoquée par le contraste entre cette condition abjecte et les caractères d'ordre, de rigueur, de logique que l'évocation de ces mécanismes suggère infailliblement ? Le malheureux cerveau gisait là, tailladé, dépecé, déchiqueté, tous ses organes à nu. Les panneaux qui lui servaient d'enveloppe, que l'homme m'avait décrit comme de grandes surfaces luisantes, ces panneaux découpés, défoncés, étalés d'un bout à l'autre de la salle et du plancher jusqu'au plafond de hideuses blessures béantes. Dans leurs vestiges tordus et dentelés, je pouvais reconnaître la trace des outils barbares ayant servi à cette opération préliminaire, que je comparais mentalement à l'acte d'un géant maladroit s'acharnant à ouvrir une énorme boîte de conserve. Ciseaux à froid et marteaux avaient été utilisés certainement comme moyen d'attaque. Des cisailles grossières avaient ensuite pratiqué de longues fentes dans le métal, cédant la place par endroits à des scies plus efficaces pour entamer un rivet ou un boulon. Tous ces outils, d'ailleurs encore maculés de vernis et de déchets brillants, étaient en évidence dans un coin de la pièce parmi d'autres plus délicats, mieux polis, qui ressemblaient à des instruments de chirurgie. L'homme qui haïssait les machines avait procédé suivant un plan, son plan. Il avait d'abord pratiqué de très larges ouvertures un peu partout pour y voir plus clair. Puis il avait plongé dans le corps éventré et en avait retiré les organes. Il les avait étalés dans un désordre soigneux sur des planches que soutenaient des tréteaux et qui longeaient la machine depuis le guichet d'entrée jusqu'à celui de sortie. Ainsi la précieuse matière de Noia 2, fragile merveille que des légions de savants et de techniciens avaient assemblée en un organisme miraculeux, gisait exposée sur cette longue table, irradiée de lumière comme une table d'opération. Il y avait là une multitude d'appareils étranges, sur lesquels je n'arrivais pas à mettre un nom, et surtout d'innombrables rouleaux de fils électriques, des milliers de circuits de toutes dimensions, certains d'une ténuité suggérant invinciblement la texture de nerfs très subtils. Et sur toute cette substance rare, le génie singulier de l'homme qui haïssait les machines s'était également acharné, suivant là encore très probablement une certaine méthode comprise de lui seul, mais dont le résultat apparaissait au profane comme un carnage extravagant. Après avoir ouvert l'enveloppe, sorti et étalé les organes, il s'était manifestement armé de tenailles et de pinces coupantes. Pas une seule section de ses réseaux ne lui avait échappé. Mais le plus étrange, peut-être, dans cette œuvre minutieuse de saccagement, c'était la tentative de rafistolage dont on découvrait les traces évidentes après tout geste destructeur. Aucun bout de fil n'était laissé isolé. Le chirurgien avait pris grand soin de raccorder chaque conducteur sectionné à un tronçon d'un autre circuit de façon à réaliser un enchevêtrement effarant. Les points de jonction étaient protégés d'une manière assez négligente par des spires de Chatterton qui ressemblaient à des pansements, si bien que Noia 2 m'apparaissait par moments comme une sorte de monstre dont les milliers de tentacules filiformes auraient été tranchés puis raccommodés à la hâte par de grossières ligatures. Parmi les appareils qui gisaient à demi enfouis dans ce labyrinthe, il me semblait reconnaître maintenant des bobines de self, des condensateurs, des transformateurs voisinant avec des cellules très précieuses. Tous avaient été attaqués avec des armes plus ou moins fines. Seule une lame chirurgicale très délicate pouvait avoir fendu ces lamelles transparentes de mica, au sein desquelles étaient enfouis des fils d'une épaisseur microscopique, faits d'un métal plus précieux que de l'or, qui devait jouer un rôle essentiel dans les spéculations du cerveau. Ces joyaux, eux aussi, avaient été raccordés à des circuits qui leur étaient étrangers, au moyen de soudures informes, grotesques, qui les noyaient dans une gangue de bavures argentées. Rien n'avait été oublié. Des appareils de mesure accessoires, leurs vitres brisées, leurs cadres bosselés, les aiguilles tordues et le chrome soigneusement terni avaient été arrachés de leur socle, puis branchés çà et là au hasard dans ce fantastique circuit. Là encore, d'autres soudures et d'autres pansements au Chatterton attestaient une volonté de rapetissage, laquelle me paraissait plus effrayante qu'une intention de destruction totale. Et l'ensemble de ces éléments burlesques composait une expression de tristesse et de souffrance intolérable. J'en fus violemment affligé. Je fus même si péniblement affecté que j'eus une nausée, je l'avoue avec honte. Je me détournai, je courus vers la porte et je vomis, comme certains êtres sensibles devant l'étalage de la chair martyrisée. Quand je fus soulagé physiquement, quand j'eus récupéré assez de sang-froid pour me traiter d'imbécile, je me forçai à retourner dans la salle. J'y retrouvai mon hôte, plongé dans la contemplation de son œuvre avec une satisfaction visible. Il me regarda d'un air sévère. « Monsieur, dit-il, vous aurais-je mal jugé ? Seriez-vous de ceux qui ne cessent de s'apitoyer avec déraison sur ces créatures sans âme ? Estimez-vous que ce traitement n'ait pas été amplement mérité ? Non, non, m'écriai-je précipitamment. Je reconnais que c'est là une belle, une bonne, une juste vengeance, et je suis bien loin de la plaindre, c'est cette odeur. » Je n'ai pas parlé de l'odeur des terres qui emplissait le palais, parachevant l'évocation caricaturale d'une salle d'opération. En fait, je commençais seulement à l'apercevoir, mes autres sens ayant été paralysés par la violence de la vision. J'aperçus des bouteilles pharmaceutiques contenant un liquide blanc et près d'elles une cuvette encore à demi pleine où baignaient d'énormes tampons d'ouate. Mon compagnon parut accepter l'excuse. « Je comprends, monsieur. » Les terres incommodent souvent ceux qui n'y sont pas habitués. Pour moi, ce serait plutôt le contraire, son odeur me réconforte. Ce n'est d'ailleurs pas par sensiblerie que j'ai employé un anesthésique, mais l'opération se prolongea pendant plusieurs journées et mon plan exigeait qu'elle gardât une immobilité totale. Évidemment, mais vous parlez de plan. J'avoue à ma honte que celui-ci m'échappe si j'en vois le résultat. Pourriez-vous m'en donner une idée ? Un éclair de fierté illumina son front. J'attendais cette question. Soyez-en persuadé, le plan que je me flatte d'avoir conçu et réalisé ici, s'il n'est pas apparent pour le vulgaire, n'en est pas moins un petit chef-d'œuvre d'intelligence et d'audace. Malheureusement, il m'est difficile de satisfaire votre curiosité. Votre culture scientifique a été négligée, je m'en suis aperçu à plusieurs reprises. Votre connaissance des grandes lois de la physique en particulier me porte à sourire. Je le suppliais de m'en dévoiler au moins les grandes lignes. Il y consentit avec un sourire de condescendance et se mit à employer des mots étranges. Savez-vous au moins ce qu'est l'entropie ? Non. Eh bien, il s'agit d'une expression mathématique qui mesure le désordre d'un ensemble. Pour un système isolé, abandonné aux lois du hasard, comme l'univers matériel par exemple, cette entropie va toujours en augmentant et se rapproche d'une certaine valeur maxima qui correspond au plus grand désordre possible. Mais notez bien ceci, monsieur, sous la seule impulsion des facteurs aléatoires, elle se rapproche de cette valeur maxima, sans jamais l'atteindre. Mon génie fut de comprendre qu'il était insensé de laisser faire le hasard en de pareilles matières et que la question du désordre devait être traité avec une rigueur scientifique égale à celle de l'ordre. Mon œuvre d'art, monsieur, ce fut, après des travaux dont je vous épargne le détail, de réaliser, avec les éléments de cette machine, un arrangement particulier. L'arrangement particulier, plutôt, car il est unique, qui implique l'entropie maxima, c'est-à-dire le désordre parfait, idéal, absolu. J'ai découvert cette combinaison, monsieur, par la raison pure et parmi des millions d'autres qui n'eussent donné qu'un chaos partiel. M'avez-vous compris ? Assez, je crois, pour pouvoir admirer, dis-je, rêveur. Mais cet état d'entropie maxima, comme vous dites, n'est-il pas l'équivalent de la mort ? Jamais de la vie, monsieur, s'écria-t-il. Et je vais vous en fournir la preuve. Vous avez là devant vous un être bien vivant, un être en parfaite santé physique, comme on dit. Quant à sa mentalité, vous allez voir. Vous voulez dire que Noia 2 fonctionne encore ? Jugez-en vous-même. Une soudaine animation s'était emparée de lui. Il se démenait devant le tableau de commande avec des gestes fébriles, poussant un bouton ici, tournant là un commutateur et fermant violemment des disjoncteurs tordus. Était-ce l'influence de l'éther qui imprégnait toute l'atmosphère de cet antre ? Je commençais moi aussi à ressentir une ivresse bizarre. la fièvre qui saisit les buveurs de fortune lorsqu'ils croient capter dans leur univers fugitif les présages d'un événement surnaturel. Je le regardais établir de nouveaux contacts dans cette ruine, comme si cet acte était d'une importance capitale, comme s'il s'était agi d'une cérémonie à la fois raisonnable et mystérieuse, de laquelle allait émaner une révélation inouïe. Si elle fonctionne, demandez-vous. Écoutez, ne l'entendez-vous pas gémir ? Je tendis l'oreille. Je vérifiai que le traitement subi par Enoya 2 ne l'empêchait pas d'accueillir le courant. Il était clair qu'elle était sous tension. Mais au lieu du doux ronronnement que j'aurais imaginé chez une telle machine, il s'en échappait une série de sons entrecoupés et stridents qui composaient une plainte lugubre. « L'entendez-vous bien ? » cria-t-il. « Voici des lamentations douloureuses que lui arrache sa terreur des opérations intellectuelles. Voici le chant du désespoir. Elle implore qu'on lui épargne un labeur devenu pour elle un supplice de l'enfer. Mais nous ne nous laisserons pas apitoyer. Elle est prête, bien malgré elle. Qu'attendez-vous pour lui poser des questions ? Allons, monsieur, si elle fonctionne. Seigneur, vous allez la voir en pleine action. C'est le spectacle le plus cocasse. Une question, vite. Oh, facile. Il est tout à fait inutile de vous creuser la cervelle. Au contraire, plus simple le problème et mieux la démonstration sera réussie. Une question simple, répétai-je stupidement. Il était de plus en plus agité. Quant à moi, je sombrais de plus en plus profondément dans une sorte de griserie malsaine qui tendait à m'interdire toute réflexion. Il me fallut un long moment et des efforts absolument dérisoires pour trouver et énoncer une opération arithmétique élémentaire. « Cela fera l'affaire, dit-il en gesticulant comme un diable devant le tableau. Attendez, il faut être équitable. Il faut lui traduire les données dans sa langue, comme ceci. » En un tournement, il avait transposé l'opération sur une bande perforée. Ayant moi-même quelques notions du mystérieux langage des trous, je vérifiais que sa traduction était correcte. Il introduisit la bande avec violence dans le guichet d'entrée et se remit à manœuvrer des appareils de commande. Un frémissement agita la machine et les traces du douloureux martyr que lui infligeait son maître devinrent visibles dans certains de ses organes exposés sur les tréteaux comme sur un pilori. Au carrefour du fantastique réseau où des lampes et des instruments de contrôle avaient été branchés, des lueurs s'allumaient, étranges, clignotantes, dont le vacillement hésitant suggérait une instabilité inquiétante de l'énergie. L'homme avait éteint les projecteurs, sans doute voulait-il mieux jouir du spectacle. Trouant l'obscurité, les nœuds de ce circuit extravagant semblaient refléter des transes peu communes et matérialiser dans l'espace les étapes d'un calvaire. Bientôt je m'aperçus que par-dessus le clignotement rapide de ces feux, des variations d'une période beaucoup plus longue s'établissaient. Alors, quand l'intensité lumineuse passait par un maximum, l'espèce d'accablement que paraissait refléter cette vision atteignait son degré le plus pathétique. Malgré moi, j'avais l'impression peu raisonnable que la même impulsion revenait à intervalles fixes, faute de pouvoir trouver une issue, et que le même flux insipide tournait au sein de l'organisme dans une ronde interminable. Comme s'il avait lu mes sentiments, l'homme, dont la surexcitation tournait à la frénésie, se mit à hurler avec exaltation. « Elle tourne, elle tourne, elle tourne, en cercle sans jamais aboutir nulle part. Elle s'épuise à poursuivre follement une flamme qui s'est éteinte. Elle tourne avec le désespoir d'une planète qui ne recevrait plus aucun rayon d'un soleil disparu. Elle se consume dans la recherche vaine d'un état de permanence nécessaire à la pensée. Écoutez-la, regardez-la. » Je distinguais maintenant d'autres signes du supplice. Les raccords des tronçons négligemment recouverts de Chatterton laissaient échapper périodiquement des gerbes d'étincelles, signalant le passage pénible du fluide à travers des contacts défectueux. Des milliers de crépitements discordants saluaient ainsi les pointes du cycle. La clarté était alors suffisante pour me permettre de voir les aiguilles des indicateurs qui semblaient devenues folles, oscillant avec des saccades brutales, martelant les bords de leur cadran, sans jamais s'immobiliser plus d'une fraction de seconde sur un point fixe. « L'entendez-vous se lamenter ?» insista l'homme. « Elle souffre. Elle connaît l'enfer du vide spirituel. Elle endure la torture des chimériques velléités de raisonnement. » Le martyre des pensées avortées, l'affreux vertige des tourbillons en vase clos, l'horreur de ne plus éprouver que l'ignoble sentiment de sa propre déchéance. Mais peut-être, monsieur, lui avez-vous posé un problème trop compliqué encore pour elle. Il y avait un monde d'ironie cruelle dans ses propos et dans le ton sur lequel ils étaient tenus. Peut-être, peut-être, ce merveilleux, ce fabuleux cerveau est-il paralysé par un multiplicateur de 3 chiffres? Posez-lui donc une question encore plus simple. Il faut, je vous l'ai dit, être juste. Rien ne nous empêche d'être charitables aussi. Il faut tenir compte des circonstances. Nous ne sommes pas des bourreaux, que diable. Allons. Je me prêtais à ce jeu barbare avec une passion qui égalait presque la sienne, mais j'avais l'esprit si troublé qu'il me fallut encore un long délai avant de pouvoir énoncer une addition de 2 termes comprenant chacun 2 chiffres seulement. L'homme exulta. Son délire parut s'accroître encore. « C'est cela, c'est cela » cria-t-il d'une voix glapissante. « Une addition enfantine. C'est le genre d'énigme qu'il faut à cette miraculeuse machine. » Et nous allons même pousser la grandeur d'âme jusqu'à la laisser se ressaisir. Nous allons lui donner un temps de repos avant de lui proposer une spéculation aussi laborieuse. Il coupa le courant et rétablit l'éclairage pendant qu'il inscrivait l'addition sur une bande. Après un instant de répit, il mit la question dans le guichet et fit de nouveau l'obscurité. La sarabande recommença, marquée par des grésillements, des vibrations, des grincements et des palpitations de lueurs folles. Mais, comme précédemment, l'appareil qui devait inscrire les résultats, une sorte de téléscripteur, ne se mit pas en branle. Mon compagnon m'avait entraîné vers cet instrument et me le montrait du doigt en ricanant. Il me semblait bien parfois que la tige était le siège d'un frémissement, imperceptible comme une velléité de mouvement, mais elle ne parvenait pas à se soulever. Plus simple, vous voyez bien, elle ne peut pas. Ceci est encore trop savant pour elle. Encore plus simple. Dans mon ivresse, il me sembla soudain avoir une idée mirifique. Je posai la question. 1 plus 1 égale. L'homme se mit à rugir. Génial! 1 plus 1! Voilà, voilà maintenant la pâture intellectuelle qui convient à ce cerveau. 1 plus 1 égale. Allons! Il introduisit la question traduite dans le registre. Le cycle reprit, marqué par des manifestations visiblement plus intenses. Les efforts désordonnés de Noia 2 semblaient marquer la limite du désespoir. Les lueurs devenaient plus brillantes. Les étincelles crépitaient avec plus de violence. Malgré mon désarroi, je songeais qu'il était véritablement miraculeux qu'un incendie n'eût pas encore éclaté. L'homme qui haïssait les machines me poussa de nouveau vers le guichet des résultats. Cette fois, après une série de vibrations nettement perceptibles, le téléscripteur se mit soudain en branle. Il s'agita alors sans cesse d'une manière fébrile, saccadée, comme si, ayant vaincu l'inertie des masses par un effort impossible à répéter, il craignait à chaque instant de retomber dans la paralysie. Il ne s'arrêtait plus. La tige claquait avec violence, en perçant des trous à un rythme endiablé, tandis que la bande se déroulait à une vitesse folle. La machine paraissait trouver une compensation et implorer des excuses à l'absurdité de sa réponse en proclamant celle-ci de toutes ses forces et en la répétant sans cesse, car cette réponse était totalement dénuée de signification. Elle consistait en une suite de chiffres perpétuellement recommencés. « L'entendez-vous ? » s'écria l'homme qui haïssait les machines. « Mais l'entendez-vous bien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 plus 1 égale ceci d'après elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Que voilà une belle, une admirable réponse. Vous êtes témoin. À moi, monsieur, maintenant. Posez-moi la question. La même, bien sûr. Il faut toujours être juste. Toujours juste. Je vous le répète. 1 plus 1 égale, demandai-je en le regardant. 1 plus 1 commença-t-il sur un ton de triomphe. 1 plus 1 Eh bien, c'est très simple. 1 plus 1 égale. Il s'interrompit brusquement. Terrassé par la crise que j'avais senti venir, il poussa un gémissement, porta la main à son crâne et murmura plusieurs fois d'une voix angoissée qui paraissait traduire une souffrance atroce. 1 plus 1 égale. 1 plus 1 égale. 1 plus 1 égale. Son œil n'était plus éclairé que par la lueur falote de la démence. Un peu de bave sortit de sa bouche. Dans la palpitation de ses tempes, je devinais un effort prodigieux qui aboutit d'une manière dérisoire à un bredouillement prolongé, rauque, semblable à une litanie, et où j'avais du mal à discerner une suite de chiffres sans cesse répétés. Ensuite, il s'abattit sur le sol, inanimé. Au même moment, l'inévitable se produisit. Les innombrables courts-circuits dont le cerveau était le siège se fondirent en une seule gigantesque étincelle, un éclair fulgurant qui radia une seconde les entrailles de ce chaos et ne s'éteignit que pour laisser place à l'incendie. En un instant, la machine devint un brasier ardent. Je n'eus que le temps de m'enfuir. De longues flammes rouges emplirent bientôt l'espace et dévorèrent toute chose à l'intérieur du palais.
France Culture vous a présenté Morceaux choisis. Morceaux choisis. Pages publiées, choisies par l'auteur et présentées par Jean Paget. Ce soir, Pierre Boulle, avec Michel Bouquet et Alain Cuny. Prise de son Charles Marié, assistante Nicole Vuillaume, réalisation Georges Gravier. C'était Morceaux choisis.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 mars 1965. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.